à l'échographie plus ou moins une IRM en complément. Un cas de dilatation ventriculaire dans un contexte d'hémorragie intraventriculaire et intraparenchymateuse associée à une hémorragie cérébelleuse. Un deuxième cas, d'hémorragie cérébelleuse. Et dans ces cas de lésions ischémo-hémorragique classique tout du moins, l'hypothèse est quand même qu'il y a un effet conjugué de l'hypoxie ou de l'anoxie prolongée associée à l'hyperdébit qui va être malmené au moment des transfusions et qui rappelle un petit peu les lésions qu'on peut voir par exemple dans les situations de mort fœtale in utero sur des grossesses gémellaires monocoriales avec la mort fœtale d'un jumeau et le type de lésion qu'on peut mettre en évidence chez le jumeau survivant. Ils avaient rapporté aussi, comme vous l'avez vu, un cas de leucomalacie périventriculaire dans une forme kystique, avec vous voyez, des lésions qu'on retrouve d'habitude en postnatal chez les prématurés aussi, et qu'on a quand même beaucoup de mal à étayer, mais qu'on suppose être plus en rapport avec une encéphalopathie vraiment plus liée à l'hypoxie prolongée et à la réduction prolongée du taux d'oxygène dans le sang fœtal. La même équipe, parce qu'il y a très peu de cas, donc je vous rapporte à peu près tout ce qui existe sur le sujet, a publié quelques temps plus tard, en reprenant les deux premiers cas où il y avait une atteinte cérébelleuse et deux autres cas qu'ils ont eu, des lésions impliquant spécifiquement le cervelet, excusez-moi, et donc à nouveau des lésions ischémo-hémorragiques cérébelleuses qui impliquaient éventuellement le vermis. Et on sait que dans ces cas-là, lorsqu'il y a une atteinte vermienne, on va être beaucoup plus inquiet sur le devenir postnatal en termes de coordination, d'oculomotricité et éventuellement de retentissement sur les fonctions supérieures. Ici, deux cas rapportés par l'équipe historique du CNRHP, lorsque le CNRHP était à Saint-Antoine, dans des contextes d'alloïmmunisation anti-KEL dans les deux cas. Un des deux cas correspondait à une ventriculomégalie très sévère, progressive, ayant abouti à une interruption médicale de la grossesse. Et ce deuxième cas ici, qui est intéressant du point de vue de l'imagerie, un fœtus qui finalement avait une anémie sévère dès 19 semaines, un retard de prise en charge, un retard d'adressage, une première transfusion uniquement à 21 semaines avec un niveau d'anémie extrêmement sévère à 1 gramme, une ascension d'hémoglobine dont on peut discuter qui est probablement un petit peu trop importante, qui dépasse largement 4 fois le taux initial d'hémoglobine, une deuxième transfusion environ une semaine après, et dès 23 semaines, apparition d'une dilatation ventriculaire bilatérale modérée initialement, qui amène à réaliser une neuroimagerie de référence vers 26 semaines, et qui met en évidence un accident clastique important avec une lésion temporale porencéphalique, un amincissement cortical franc, qui a abouti à une interruption médicale de la grossesse. Dernier cas qui, moi, me surprend et qui est le seul que j'ai trouvé, que j'explique pas très bien, on pourra peut-être en discuter dans vos expériences respectives. Un cas d'alloïmmunisation anti-KEL prise en charge dans une équipe anglaise, première transfusion à 21 semaines. A priori, l'hémoglobine minimale jamais constatée au cours des différentes transfusions de ce fœtus était de 5,6 grammes. Et comme on a pu déjà en parler ce matin, généralement on considère que c'est le seuil de 5 grammes d'hémoglobine qui est un peu notre cut-off de sévérité, parce que c'est en dessous de 5 grammes qu'on va être amené à éventuellement mettre en évidence un tableau d'anasarc. Et généralement, on ne s'attend pas à avoir de grosses séquelles si on ne descend pas en dessous de ce seuil. Un enfant qui naît à 33 semaines et demie. Et en fait, une ETF est réalisée de façon un peu fortuite à J1, retrouvant des lésions sévères. Et donc l'IRM à J4, vous voyez, on a une atrophie corticale majeure avec une encéphalomalacie assez catastrophique. Et ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas été vu en prénatal. Alors on peut se poser la question du suivi. Je pense que ça aurait dû être vu à l'écho. Enfin, voilà, c'est des cas. Et bien évidemment, cet enfant à 11 mois de vie présente une IMC, une infirmité motrice cérébrale quadriplégique avec une microcéphalie sévère. Je vous avoue que ce cas m'a un peu surpris, je ne le connaissais pas, c'est en préparant ce topo que je l'ai trouvé. Voilà, 5 grammes 6, c'est étonnant. Du coup, faute d'études spécifiquement adressant ce sujet, on s'est posé la question de voir un petit peu ce qui ressortait, nous, de notre expérience au CNRHP, parce qu'en discutant entre nous, on a toujours des cas de « Ah, tu te souviens de Madame Machin, qui a eu telle lésion », mais finalement, quelle était exactement la prévalence de ces cas dans notre expérience. Donc, on a repris toutes les patientes prises en charge dans le centre entre 2010 et 2017, et on a décidé d'inclure toutes les alumisations sévères qui avaient bénéficié d'au moins une transfusion fœtale de sorte à avoir une certitude sur le diagnostic d'anémie et d'évaluer le degré de sévérité de l'anémie par une mesure de l'hémoglobine. Et on a retenu les patientes qui avaient eu au moment d'une de leurs transfusions, généralement la première transfusion, un taux d'hémoglobine inférieur à 5 grammes par décilitre. On a exclu les autres causes d'anémie comme le parvovirus parce qu'on sait par exemple que dans ces causes infectieuses, il peut y avoir un tropisme spécifique pour le système nerveux central qui aurait pu biaiser nos résultats, ou les cas d'alumisation sévère qui n'ont pas bénéficié d'une transfusion fœtale. Et on a récupéré toutes les données de neuroimagerie du troisième trimestre, échographique et généralement IRM aussi, qui avaient été réalisées. Donc sur la période d'étude, 193 fœtus ont été pris en charge pour une alumisation sévère avec au moins une transfusion fœtale dans le centre. 54 fœtus ont eu à un moment, généralement au moment de la première transfusion, 54 fœtus, un taux d'hémoglobine inférieur à 5 grammes. J'ai exclu, bien sûr, de ce travail, les cas de mort fœtale in utero qui survenaient soit dans le contexte de complications liées à la PSF, souvent à des termes très précoces, et 8 fœtus pour lesquels la survenue d'anomalies du rythme ou d'autres causes ont fait qu'on a extrait les enfants avant qu'ils aient pu avoir une neuroimagerie de référence au troisième trimestre. Donc finalement, on a 41 fœtus qui ont eu au moins une transfusion et qui ont eu un bilan neuroanatomique complet. Et parmi ces 41 fœtus, 3 cas d'anomalie cérébrale de diagnostic prénatal ont été mis en évidence. Donc si on regarde ces cas, bien sûr, il s'agit toujours de tableaux extrêmement sévères, donc des transfusions qui commencent toujours précocement vers 19 ou 20 semaines, avec des taux d'hémoglobine très bas, 1,6 g, 2,6 g, 3,5 g, on est toujours en dessous des 5 g. On retrouve pour les deux premiers cas des lésions classiques, donc ischémo-hémorragiques, qui, dans un cas, intéresse le cervelet, les deux hémisphères, avec une prédominance gauche et une atteinte vermienne. On va regarder chaque cas. Une lésion sustentorielle, enfin des lésions sustentorielles dans le deuxième cas, avec des lésions porencéphaliques et clastiques fronto-temporo-pariétales gauche, un tableau d'encéphalopathie kystique et des anomalies de gération, des anomalies corticales assez sévères. Le dernier cas est un cas d'hypoplasie vermienne isolée qu'on va rediscuter, qui nous étonnait un petit peu et on comprendra pourquoi. Donc le premier cas, une patiente au moment de cette grossesse, troisième geste, deuxième part, qui avait déjà une petite fibre bien portante, une alumisation diagnostiquée au cours de sa deuxième grossesse, pour laquelle elle avait déjà bénéficié de 2 transfusions fœtales. La grossesse marquée par les anomalies cérébrales, il s'agissait d'une alumisation anti-RH1, anti-C, anti-JKA, et avec un programme transfusionnel, comme vous le voyez, qui commence dès 19 semaines. Un taux d'hémoglobine à 1,6 g, c'est tout décalé, à la première transfusion, et aux 2 transfusions suivantes, un fœtus qui était à nouveau en dessous de 5 grammes, qui est hémolysé assez rapidement. Et finalement, une patiente, vous voyez, qui a bénéficié de 6 transfusions sur sa grossesse. À 29 semaines, on met en évidence, dans le cadre du suivi régulier échographique, une dilatation ventriculaire bilatérale modérée à 11-12 mm. Et du coup, on demande rapidement une neuroimagerie de référence. Et quand cette patiente est revue en écho et en IRM, on voit, en fait, on met ici en évidence, on ne voit pas très bien, c'est par là, je sais pas si... Hop, sur le cervelet, vous voyez, on voit qu'on a l'hémisphère cérébelleux gauche qui est très détruit. On a l'impression que ça empiète jusqu'au vermis. On définit mal les contours de l'hémisphère cérébelleux droit. Et quand on reprend les coupes d'IRM, qu'elles soient axiales ou sagittales, ici on voit qu'on a une atteinte bilatérale des hémisphères cérébelleux qui prédomine largement à gauche et un vermis qui est clairement pathologique pour le terme. Vous voyez qu'on a le lobe inférieur qui est très mal dessiné, les scissures qui sont mal vues, scissures primaires, scissures secondaires, et un vermis qui semble très atteint. Le couple, bien sûr, est reçu en consultation de conseil neuropédiatrique, est informé du risque de séquelles liées à cette atteinte assez sévère de la fosse postérieure, décide de poursuivre la grossesse, et finalement, cette patiente accouche d'une petite fille de 3,7 kg à quasiment 38 semaines, qui a eu un suivi régulier imagerie et neuropédiatrique. Et donc ici, vous voyez l'imagerie à 5 mois de vie, On a à peu près les mêmes constatations en IRM avec cette destruction complète de l'hémisphère cérébelleux gauche, un vermis qui est extrêmement pathologique. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle va être vue bientôt, cette petite fille, mais elle a à 30 mois, la dernière consultation neuropédiatrique, un devenir strictement normal. Pas d'ataxie, rien. Le deuxième cas, patient de quatrième geste, troisième part au moment de sa prise en charge, avait déjà deux fibres bien portantes, troisième grossesse, diagnostic d'alomisation sévère. Il n'y a pas de transfusion, il y a une prise en charge postnatale avec deux transfusions postnatales. C'est une alomisation anti-RH1 sévère, programme transfusionnel qui commence à 20 semaines à 2,6 g. Et à 25 semaines, dans le cadre du suivi toujours échographique rapproché, on met en évidence une anomalie d'opérculation de la vallée sylvienne qui paraît irrégulière, vous voyez, avec ce caractère hyper-échogène ici, et cette vallée sylvienne qui a une forme extrêmement anormale. Nourrie imagée de référence demandée rapidement dès 26 semaines, et on voit cette lésion clastique fronto-temporo-pariétale extrêmement étendue, avec, comme on le voit peut-être mieux ici, vous voyez cet épaississement de ce qui semble rester le cortex qui est irrégulier et qui paraît plus large que les zones de cortex contralatérales qui correspondent en fait à des foyers de micropolygyrie. On sait qu'elles sont de mauvais pronostics et pourvoyeuses de beaucoup d'épilepsie chez les enfants. Et donc ce couple a opté pour une interruption médicale de la grossesse à 28 semaines. Dernier cas pour aller très vite, donc une patiente qui a un lourd passé lié à son alomisation et avec des grossesses précédentes avec déjà de nombreuses transfusions fœtales, une alomisation anti-D et C. Programme transfusionnel débutant à 20 semaines, un fœtus qui est à moins de 5 grammes au moment des deux premières transfusions. Et là, rien de spécial à l'écho, mais parce qu'elle a moins de 5 grammes, on a souvent cette habitude de faire une neuroimagerie de référence dans le centre, avec généralement une écho plus IRM. Et en fait, à 32 semaines, sur cette IRM systématique, une impression d'hypoplasie vermienne avec des mesures IRM qui placent la surface et les diamètres antéro-postérieurs et la hauteur du vermis inférieurs au troisième percentile sur les courbes historiques qui ont été publiées par Catherine. Le couple est informé d'un peu des limites de l'IRM dans ce contexte, mais qu'on a quand même une suspicion de petit vermis, même si on ne l'explique pas très bien dans le contexte de l'alloimmunisation et de l'anémie profonde, parce que ce n'est pas le type de lésion un peu clastique, accidentelle qu'on a l'habitude de voir. Il décide de poursuivre la grossesse. La patiente est césarisée à quasiment 35 semaines pour un motif obstétrical tout autre. Et finalement, sur le contrôle d'imagerie postnatale à un mois de vie, on a un vermis qui est absolument parfait. Donc il faut beaucoup se méfier aussi de ces imageries un peu systématiques. On sait que pour ce qui est de la caractérisation du volume vermien, de la surface, et donc les diagnostics d'hypoplasie vermienne ou d'agénésie vermienne inférieure, qui sont des diagnostics qu'on peut faire souvent, on a 16% de faux positifs. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être assez prudent sur ce type d'analyse en IRM. Donc pour conclure, vous voyez, ces atteintes cérébrales sont finalement assez rares, même chez des fœtus très malades, qui ont des anémies extrêmement profondes, qui ont des gestes invasifs répétés. Donc 1 à 1,5% dans notre série. Par contre, ces lésions sont potentiellement extrêmement sévères et on retrouve essentiellement des phénomènes clastiques qui sont effectivement probablement la conjugaison de l'hypoxie chronique avec une fragilisation vasculaire et des phénomènes hémodynamiques d'hyperdébit qu'on va venir altérer avec nos transfusions. Est-ce qu'il y aurait aussi des phénomènes d'altération de la paroi vasculaire dans ce contexte, mais qu'on ne sait pas mettre en évidence? Ce qui reste quand même étonnant, c'est qu'on a quand même beaucoup de fœtus qui ont des profils similaires, qui sont très anémiés de façon prolongée, qui ont beaucoup de transfusions, et pour autant, on retrouve ces lésions cérébrales que chez 1% des fœtus. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs de susceptibilité intrinsèques qu'on n'est pas capable de mettre en évidence? Pourquoi certains fœtus vont avoir ces complications et pas d'autres? Moi, je n'ai pas la réponse. En tout état de cause, même si ces lésions sont rares, elles peuvent être potentiellement graves avec un devenir assez dramatique. Et donc, il est absolument essentiel de mettre en place une surveillance échographique, voire une IRM systématique en connaissant ses limites, dans le troisième trimestre de la grossesse pour pouvoir bien analyser la giration